Bon, il est bon aussi quelquefois de, je dirais, de s'arrêter et d'observer un peu la société dans laquelle nous vivons. Moi, j'aime bien un peu faire ça. Et les vacances, c'est vraiment le moment approprié pour ça. Et puis, comment nous, en tant que chrétiens, nous arrivons à nous intégrer donc dans ce monde qui, en tous les cas, ma propre perception des choses, il est de plus en plus hostile à notre foi. Alors c'est vrai, on n'est pas forcément dupes, le diable est appelé quelquefois le prince de ce monde, et puis il va amener toute la créature de Dieu dans une impasse, ça on en est sûr. Et puis il a su donc au fil des siècles manœuvrer les différentes sociétés pour rendre le message de Dieu inaudible à un plus grand nombre. Et ça bien sûr dans la mesure où Dieu lui permet une certaine liberté. Alors c'est vrai aussi, c'est facile de mettre vraiment tout sur le dos du diable. Et comme sa stratégie justement est de nous faire croire qu'il a plus de pouvoir qu'il en a vraiment, ça a le mérite ainsi de rendre, même nous en tant que chrétiens, de rendre notre crainte du diable plus forte que notre crainte de Dieu. Alors la période des vacances, c'est le moment idéal pour se poser et de prendre le temps pour examiner les choses, toutes choses, il nous est dit, et de retenir ce qui est bon. Car on est un peu plus déconnecté de notre vie quotidienne sans tout ce bombardement d'informations et de messages que la société nous envoie. Alors pour vous aussi, les plus jeunes, qui faites des camps, c'est l'occasion de faire un break avec vos activités de loisirs qui sont basées, je le constate, principalement sur les activités de loisirs basées sur l'image, telles que les jeux vidéo, le net. Alors moi, je n'ai pas de compte Facebook ou autre, néanmoins, je constate qu'avec le net, il y a beaucoup d'idées, il y a de notions, il y a des théories qui circulent, qui viennent heurter, et qui viennent heurter d'ailleurs ou pas, ma sensibilité. Et justement, avec ce flot d'informations, d'images, qui atteignent et captent nos cinq sens tout au long de l'année, comment arrivons-nous à faire le tri entre ce qui est vrai et ce qui est faux? Et moi, je suis persuadé que bombardés comme nous le sommes, et c'est bien le but, me semble-t-il, une grande majorité de nos concitoyens, et nous, avec quelquefois, n'arrivons plus à prendre suffisamment du recul pour analyser toutes ces informations. Il y en a tellement qu'on a du mal à faire le tri. Alors, ne sachant plus discerner le vrai du faux, il y a deux réponses à cela. Alors, soit accepter tout sans aucun discernement, ça c'est basé sur ce principe que, puisque de toute façon tout est bon, rien n'est mal, on peut y aller, ou alors soit tout mettre en doute, puisque la vérité n'existe pas. Et au bout du chemin de cela, il y a deux choses aussi, il y a la perte de confiance, et puis au bout de ça, la disparition de la foi. Et moi, c'est cette question de Luc 18, de Jésus, en Luc 18, verset 8, « Quand le Fils de l'homme viendra sur la terre, reviendra, trouvera-t-il de la foi sur la terre ?» Cette question me fait un peu trembler. Même Jésus, en personne, se permet d'émettre un doute. Alors, ce flot de messages ou d'images que nos yeux dévorent quotidiennement influence notre mode de pensée et d'analyse, et donc nos choix et nos préoccupations. Alors, nous pouvons donc en arriver à croire uniquement ce que nous voyons, et ça, ce que nous voyons, on l'a rappelé un peu ce matin, c'est opposé à la foi. Ça, c'est Hébreux qui dit, puisque la foi, c'est la démonstration des choses qu'on ne voit pas. Et ce n'est pas pour rien que Dieu veut une relation avec nous basée sur la foi. Et c'est pour ça d'ailleurs qu'on l'a rappelé ce matin, il ne se montre pas, mais il montre ses aspects de sa personne pour qu'on puisse le voir à travers. Alors, avant que tous ces outils audiovisuels apparaissent, c'était le texte écrit et parlé qui véhiculait principalement les messages et les idées. Et notre âme a une telle résilience, justement, qu'elle a besoin de temps pour entendre et comprendre le message de Dieu. Et justement, la lecture de la parole de Dieu et sa méditation laisse le temps aux émotions, à notre raisonnement, un peu de tomber d'accord. Et ainsi, la foi et les convictions peuvent s'exprimer. Et c'est d'ailleurs ce mode de communication que notre Dieu a choisi pour véhiculer son message. Je rappelle ce verset, Malachie 3,16. Ceux qui craignent l'Éternel se parlèrent l'un à l'autre. L'Éternel fut attentif et il écouta. Et un livre de souvenirs fut écrit devant lui pour ceux qui craignent l'Éternel et qui honorent ce nom, son nom. Alors ce livre de souvenirs, c'est la parole. Et cette parole est le moyen qui est donné aux croyants pour les réorienter constamment vers le Créateur. C'est aussi la mission des évangélistes et des missionnaires qui, à travers les siècles, ont eu de cesse comme mission de faire connaître la bonne nouvelle du salut, de la rendre disponible dans tous les continents en la traduisant inlassablement dans presque tous les dialectes et langues. Alors peu à peu, dans nos pays développés, le texte a laissé la place au son et à l'image. Donc c'est sûr, c'est plus attrayant. Et la preuve en est, c'est la difficulté que la presse écrite, digne de ce nom, rencontre de nos jours. Et même elle a de plus en plus, elle grossit la taille un peu de ses photos, et ça c'est pour satisfaire le voyeurisme de ses lecteurs. Et justement, ça tombe bien. 1 Jean 2, verset 16 nous dit « Car tout ce qui est dans le monde, la convoitise de la chair, la convoitise des yeux et l'orgueil de la vie ne viennent point du Père, mais viennent du monde. » Alors ce matin, je voudrais insister sur cette penchant naturel des hommes au niveau de la convoitise des yeux. Et cette convoitise des yeux, justement, elle trouve son compte dans cette diversité d'offres qui est basée sur l'image. Et naturellement, nous sommes attirés, peut-être même hypnotisés par l'image, surtout si elle n'est pas figée, si elle a le son, et en plus, si on peut en plus y participer, s'y intégrer. Et désormais, il me semble que l'image remplace la parole. Et ce principe s'intègre dans notre culture. Vous connaissez peut-être cet adage, un beau dessin remplace un long discours. Ce matin, c'est un prêche que je vous fais, ouvrez vos oreilles, vous n'aurez pas de dessin. J'ai même oublié mon PowerPoint. Et étant donné que l'image sait parfaitement enrober et rendre captivant le message, nous pouvons donc rester facilement apathiques en face d'idées bien présentées, même si elles sont opposées à la parole de Dieu. Et puis, de toute façon, il y en a tellement qu'on n'y fait pas forcément attention. Et j'aime bien faire le parallèle de notre temps avec l'époque qu'ont vécu Daniel, Anania, Michaël et Azaria. Eux donc, après avoir vécu et grandi en Israël, et être baignés dans l'enseignement biblique et la foi en l'Éternel, ils se trouvent déportés à Babylone. Donc ils sont immergés dans une haute culture qui est étrangère et opposée à la leur. Et pour nous aussi, il me semble que les églises et la culture judéo-chrétienne ont eu une grosse influence politique dans nos pays occidentaux. Puis inversement, la politique a eu une influence dans les organisations des églises. Et les valeurs chrétiennes étaient donc correctement intégrées dans les lois, et les chrétiens se trouvaient protégés en quasi-accord, je dirais, avec les décisions politiques, et puis en plus libres totalement de proclamer l'évangile. Et de nos jours, on constate que la situation a déjà beaucoup évolué, avec la plupart des pensées bibliques contestées. Et donc, peu à peu, nous nous trouvons dans un monde déchristianisé, de plus en plus étranger et opposé à notre foi. Et bien que nous ne soyons pas physiquement déportés, le monde dans lequel nous vivons se transforme sans que nous en ayons conscience quelquefois. Alors bien sûr, nous pouvons regretter ce bon vieux temps. Néanmoins, qui peut dire si c'était mieux? Personnellement, je n'en suis pas persuadé. Car au fil des années, les églises et les chrétiens plongés dans ce confort laissent refroidir peu à peu leur premier amour. Et nous posons actuellement beaucoup de questions, en tous les cas notre Église, au sujet de notre place et rôle dans la société. Et puis, le temps est venu de mettre notre confiance en Dieu et non plus dans la possibilité que la société a de nous protéger ou même peut-être de se réformer. Soit-elle de culture chrétienne ou pas, le temps est venu de réaliser que nous sommes étrangers et voyageurs sur la terre et de nous détacher des logiques de ce monde. Alors, on aimerait bien que les chrétiens aient plus d'influence dans la société et qu'un homme chrétien craignant Dieu gouverne notre pays. Cependant, est-ce que c'est ce que Dieu veut? Si ça arrive, c'est une grâce. Car souvenez-vous de Jésus qui, lui, pouvait être un roi politique exemplaire, puissant, agissant, et qui n'a pas assumé ce rôle. Tout simplement parce qu'il a fait la volonté de son Père, qui était tout autre. Et puis nous savons justement, on l'a rappelé, où cela a mené. Alors pour en revenir à Daniel, la première chose qui leur arrive à Babylone est que le chef des eunuques leur donne un autre nom. Alors, l'objectif de cette manière, il y a plusieurs façons de cette manœuvre, de l'expliquer. Il y a certains qui diraient que c'est pour faciliter leur intégration. Et puis d'autres diront que le but est de les couper encore plus profondément de leur culture et de leur origine. En modifiant leurs identités, ils sont donc liés moralement à leur nouvelle société qui les a rebaptisés. Pour ceux qui ne sont pas familiarisés avec la sphère Internet, vous devez savoir que dans beaucoup d'applications, d'accès aux sites, forums de discussion, jeux ou autres, la première chose que vous avez à faire, c'est de prendre un pseudo, un autre nom. Ainsi, votre pseudo vous permet de vous exprimer, de vous manifester en vous cachant sur une autre identité. Et cela, ça vous conditionne un peu à peu, dans votre nouvelle identité, dans votre nouvelle personne que vous avez choisie. Et puis, il y en a même des personnes qui deviennent de plus en plus accros à leur pseudo et investissent de plus en plus de temps et d'argent, quelquefois, pour leur nouveau personnage qu'ils en passent pour eux-mêmes. Ainsi, dans ce monde qui est finalement pas si virtuel que ça, ils se trouvent donc totalement déconnectés de ce qui les entoure. Moi, je les appelle les déportés du net. Daniel et ses amis sont déportés à Babylone. Puis désormais, eux, ils s'appellent Belshazzar, Shadrach, Meshach, Abednego. Et ils vivent dans un palais, au milieu du luxe, tout est magnifique. Ils ont même droit au mets et au vin du roi. Dans le monde virtuel, c'est pareil. On vous en met plein la vue. Il y a des maps grandioses, des personnages, des effets spéciaux. Rien n'est trop beau, tout est possible. Et puis même si vous mourrez, pas grave, vous revivez. Alors, comment ne pas devenir accro à ces images? Ces images qui gomment notre réalité. D'un point de vue humain, ce qui arrive à Daniel et ses amis, c'est une réussite sociale. Tout est réuni pour devenir accro à leur nouvelle vie. Cependant, pour Daniel et ses amis, tout ce monde n'a pas d'emprise sur eux. Et tout en vivant un changement brutal de leur situation, ils font le choix de rester en phase avec la pensée biblique, en refusant de se souiller, mais sans vouloir réformer le système. C'est Daniel 1, versets 8 et 9. Daniel résolut de ne pas se souiller par les mets du roi et par le vin dont le roi buvait, et il pria le chef des eunuques de ne pas l'obliger à se souiller. Dieu fit trouver à Daniel faveur et grâce devant le chef des eunuques. Paf. Alors moi, il y a dans ce passage, il y a trois choses qui m'interpellent. Pour moi, ça me parle. Premièrement, il y a Daniel, donc il est loin de ses repères, bien sûr avec ses amis, il n'est pas tout seul. Et Daniel avait arrêté dans son cœur de ne pas se souiller. Deuxièmement, il prie. Il ouvre sa bouche pour ne pas être harcelé. Et puis troisièmement, c'est normal, Dieu fait le reste. Alors je reviens donc sur ce premier point, sur ce qui vient interférer, voire nous souiller. Et Jésus nous dit, dans Matthieu 15, verset 11, on connaît ce passage, « Ce n'est pas ce qui entre dans la bouche qui souille l'homme, mais ce qui sort la bouche, c'est ce qui souille l'homme. » Alors bien entendu, on comprend ce verset que ce n'est pas la nourriture qui a maintenant qui a la faculté de nous souiller. Néanmoins, les paroles de Jésus précisent que c'est ce qui sort de nos bouches qui nous souille. Et évidemment, nous comprenons ce passage dans le sens négatif, que tout ce qui est critique, médisance, prononcée par nos bouches, nous souillent. Mais en revanche, comprenant aussi que toute bénédiction, toute prière qui sort de nos bouches ne nous souille pas, bien au contraire. Donc n'hésitons pas à parler pour bénir plutôt que critiquer, critiquer même le système, le monde dans lequel on vit. Une autre fois, Jésus mentionne que c'est la vue qui oriente tout notre être. C'est Luc 11, verset 34. « Ton œil est la lampe de ton corps. Lorsque ton œil est en bon état, tout ton corps est éclairé. Mais lorsque ton œil est en mauvais état, ton corps est dans les ténèbres. » Donc la bouche, les yeux, ça commence à faire beaucoup. Je vais arrêter là. Mais il apparaît clairement dans les paroles de Jésus l'importance de la vue et l'impact que les yeux ont sur notre état. La question est donc, qu'est-ce que nos yeux ont l'habitude de voir et d'apprécier? En d'autres termes, qu'est-ce qui nourrit notre âme et qui peut rendre mon corps éclairé ou dans les ténèbres? Donc pour Daniel, c'était tous ces mets et vins délicats du roi qui risquaient de le souiller. Pour nous, est-ce que ce n'est pas quelquefois notre dépendance à toutes ces images? Sous toutes ces formes, films, jeux vidéo, messages que nous recevons passivement, en grande quantité, et dont nos yeux sont avides. Bien sûr, tout n'est pas mauvais sur le net ou la télé, mais le flot d'informations est tel que nous subissons un matraquage tel que je me demande, quelquefois, si, malgré tout, il ne nous conditionne pas pour nous amener une pensée unique, éloignée de la foi et de la vérité. En tous les cas, c'est une passion chronophage, qui peut même nous laisser aller à des addictions. Addiction à Internet, addiction aux jeux, addiction à la pornographie, addiction aux différents comptes de partage sociaux ou autres. Et toutes ces addictions destructrices utilisent comme porte d'entrée nos yeux. Et ça pour nous maintenir captifs, aimantés devant nos écrans. Alors une des solutions que nous pourrions avoir est de se déconnecter et de se fermer à tout ce bruit. Alors dans ce cas, c'est mettre quelque peu en application ce verset de Matthieu 18, verset 9. Et si pour toi ton œil est pour toi une occasion de chute, arrache-le et jette-le loin de toi. Mieux vaut pour toi entrer dans la vie n'ayant qu'un œil que d'avoir deux yeux et d'être jeté dans le feu de la géhenne. Alors, parole de Jésus difficile à entendre, surtout quand on est dans le creux. Mais combien efficace? Moi, je peux vous en témoigner. Car j'ai expérimenté ce que veut dire jeter ce qui est une occasion de chute. Je jouais à une période à un jeu vidéo, un jeu de stratégie, et pour laquelle j'avais une réelle addiction. Et bien sûr, ça, je le contestais. Il m'arrivait de jouer des heures jusque tard dans la nuit. Et bien sûr, ça prenait le pas sur ma relation avec Dieu. Et évidemment, même notre foyer s'en trouvait perturbé. Et puis forcément, Déborah était excédée, et moi je me trouvais enchaîné entre ce besoin, je dirais, vital de jouer, et puis la culpabilité. Jusqu'au jour où nous avons décidé ensemble de jeter ce jeu à la poubelle. Et lié comme je l'étais, je n'avais pas la force de faire ce geste. Et donc c'est Déborah qui l'a fait pour moi. Et à partir de là, c'était fini. Dieu a honoré ce geste. Même si ce n'est pas moi qui ai fait ce geste, j'ai été guéri. À petite échelle, me direz-vous, mais nous avons expérimenté la foi et la mise en pratique de ces paroles. Et dans toutes les victoires que Dieu nous accorde, il y a la prière, il y a la confession de la bouche, bien entendu, suivie par un acte de foi volontaire. Pour reprendre les termes de Jacques, il y a la foi et les œuvres. Et ça rejoint un peu le récit de Daniel, qui après avoir pris une décision, en arrêtant dans son cœur de ne pas se fier, pria l'eunuque. Il n'est pas dit « pria Dieu », mais « pria l'eunuque ». Bon, on sait que connaissant la vie de prière de Daniel, nous supposons qu'il a prié Dieu pour que ce gros souci soit réglé. Mais ce qui nous est rapporté dans ce verset, c'est qu'il a prié l'eunuque de ne pas l'obliger à se souiller. Et c'est cet acte de foi. Et ça, cet acte de foi, c'est l'esprit que nous avons maintenant désormais, qui nous le motive. Ça a été motivé aussi parce qu'il avait arrêté dans son cœur, dans son âme, qui permet à Daniel d'ouvrir la bouche, donc son corps peut se manifester aussi, et d'oser simplement demander à l'eunuque de le laisser libre et surtout de ne pas l'harceler. L'esprit, l'âme, le corps, ces trois choses-là sont d'accord, et à partir de là, la réponse vient de Dieu. Dieu fit trouver faveur et grâce devant le chef des eunuques. C'est d'une simplicité biblique. Avez-vous déjà prié de cette façon, l'ennemi de nos âmes, lorsqu'il vous arrive d'être tenté? Lorsqu'une tentation est là, avons-nous l'audace de dire « Écoute, c'est bien aimable à toi, mais s'il te plaît, ne m'oblige pas à me souiller. » Ça ne veut pas dire que nous restons là sans rien faire. Auparavant, il y a des décisions que nous avons arrêtées. Ces décisions qui ont été ancrées par des convictions dans la parole de Dieu. Vous vous souvenez peut-être du témoignage de la guérison de la maman de Natacha, qui était basée sur une compréhension du passage de Matthieu 21, verset 21. « Quand vous diriez à cette montagne, ôte-toi de là et jette-toi dans la mer, cela se ferait. » Moi, ça m'a frappé. Cette montagne, pour elle, c'était la maladie. C'était sa maladie. Une maladie qu'elle avait depuis de longues années. Et elle a donc pris cette parole de Jésus à la lettre, et elle a prié à la maladie de partir. Et en effet, elle l'a bel et bien quittée, définitivement. Alors, bien sûr, notre Seigneur est souverain, et c'est lui qui déverse ses grâces à notre égard. Cela n'empêche pas qu'il y a une différence aussi dans la mesure de notre foi entre demander à Dieu d'intervenir, donc ça suppose de toute façon que c'est Dieu qui a le dernier mot, et ça, attention, dans nos prières, ça peut ressembler aussi à du fatalisme, et entre mettre en pratique la parole en demandant directement à la source du mal de partir. Et cela, ça implique une prise de risque plus grande, me semble-t-il, une foi plus grande. Et c'est ce que Dieu, ce que le Seigneur veut que nous fassions, que notre foi augmente. N'oublions pas l'œuvre du Saint-Esprit en nous, qui inspire, qui conteste notre volonté, si elle n'est pas dans le plan de Dieu, et qui nous convainc de notre péché pour que même que règne une harmonie entre l'esprit, l'âme et le corps. Continuons à rechercher de quelle façon il intervient dans notre esprit pour le régénérer et faire son œuvre de sanctification complète. Cette prière de Daniel 1, verset 8 est donc à utiliser sans modération. Lorsque nous sommes en proie à des convoitises qui viennent attrister le Saint-Esprit, dans ces situations, il est souvent difficile de traverser des moments seuls. Et quand ces convoitises ont enfanté et qu'elles deviennent peut-être des addictions, c'est là que nous avons besoin de nos frères et sœurs. Brièvement, je voudrais continuer en vous laissant encore la prière d'Osée 2, verset 8, qui est tout aussi efficace. Et souvenez-vous de ces deux livres, Daniel 1, 8, Osée 2, 8. Ces deux livres se suivent dans la Bible. Daniel 1, 8, Osée 2, 8. Et de quoi s'agit-il dans cette prière? Dieu demande à Osée de se marier avec une prostituée, mais visiblement, elle ne réussit pas à changer de vie. Et elle reste attachée à ses amants. Alors, Osée demande de prier contre la volonté de sa femme. Ça commence déjà au verset 4. Je ne sais pas si... Le verset 4 d'Osée 2 dit « Plaidez, plaidez contre votre mère. » Donc il dit ça à ses enfants. Plaider, c'est un peu prier, hein, je dirais. Et les versets 8 et 9, c'est pourquoi voici, je vais fermer son chemin avec des épines et y lever un mur pour qu'elle ne trouve plus ses sentiers. Verset 9, elle poursuivra ses amants et ne les atteindra jamais. Elle les cherchera et ne les trouvera pas. Puis elle dira, j'irai et je retournerai vers mon premier mari car alors j'étais plus heureuse que maintenant. Alors, le but de cette prière est de sanctifier, de mettre à part des vies prisonnières de leurs péchés. À partir du moment où une habitude, une addiction vient prendre le contrôle de notre volonté, il est très très difficile d'en être libéré. C'est pourquoi une intervention divine est nécessaire et le recours à la prière est primordial. Demander à Dieu de faire en sorte que l'addiction n'apporte que douleur, hein, c'est l'image de ces épines, dégoût, une impasse au lieu du plaisir espéré, permet à Dieu de déconstruire les mécanismes qui ont amené cette situation difficile et de libérer une vie selon sa volonté. Alors, prier dans ce sens, c'est pas facile parce que c'est aller à l'encontre de la volonté de la personne. Néanmoins, l'enjeu n'en vaut-il pas la chandelle ? Demander la douleur pour que vienne le bien peut nous sembler contre nature. C'est pourtant le sens de cette prière d'oser. Alors, il y en a d'autres aussi qui, pour se protéger de tout, tout ce qu'il y a dans ce monde, alors donc la convoitise de la chair, l'orgueil, convoitise des yeux, décident de tout couper en menant une vie d'ermite. Ils se cloîtrent, coupent du monde. Alors ça, bien sûr, aussi, si le Seigneur vous y appelle, c'est une grâce. Néanmoins, la prière de notre Seigneur à notre égard, dans Jean 17, verset 15, « Je ne te prie pas de les ôter du monde, mais de les préserver du mal. Ils ne sont pas du monde comme moi, je ne suis pas du monde. » Et ça, il me semble que c'est quand même primordial de savoir que nous ne sommes pas de ce monde. Et moi, ça me rassure. Bien sûr que j'ai mes deux pieds sur terre, mais je ne veux pas être de ce monde. Et là encore, regardons aussi Daniel avec ses amis et la façon avec laquelle ils sont intégrés dans la haute société de Babylone, soit sans toutefois aller dans son sens. Alors, quelle grâce le Seigneur nous a fait en priant de nous préserver du mal. À la différence de nos contemporains, qui n'ont pas d'autre choix que d'être du monde en s'appuyant sur ses modes et ses principes, Jésus nous rend notre liberté en payant la rançon pour nous, dans le but de nous maintenir dans son royaume hors du monde. Enfin, de ce monde, mais pas de ce monde. Enfin, bref, vous me comprenez, hein. Et en plus de son œuvre à la croix, nous avons reçu le Saint-Esprit, qui est à l'œuvre sans relâche pour nous lier à Christ. C'est son œuvre. Il veut nous lier à Christ et puis nous détacher, nous libérer de ce qui a quelque lien dans ce monde. Au verset 17 de ce chapitre 1 de Daniel, à la suite de leur pas de foi, donc verset 17, Daniel 1, Dieu accorda à ces quatre jeunes gens de la science, de l'intelligence dans toutes les lettres et de la sagesse. Et Daniel expliquait toutes les visions et tous les songes. Ça, c'est l'œuvre du Saint-Esprit dans notre vie chrétienne. Il nous accorde le discernement, la compréhension des textes. Et non seulement cela, il a pour mission de nous faire vivre pratiquement cette parole pour faire de nous une lettre connue et lue des hommes, pour reprendre une expression de Paul. Enfin, la parole de Dieu est vivante et plus que jamais d'actualité. Et comme nous avons pu le voir, elle a une dimension pratique. Juste ce verset, ce passage de Jacques 1 qu'on peut afficher. C'est pourquoi, rejetant toute souillure et tout excès de malice, recevez avec douceur la parole qui a été plantée en vous et qui peut sauver vos âmes. Sauver vos âmes, voilà l'enjeu. Nos vies sont sauvées, mais sauver nos âmes de ce monde. Sauver nos âmes de ces mauvaises habitudes. Sauver nos âmes de notre lien avec ce monde. Cette parole a été plantée en nous pour faire cette œuvre-là. Mettez en pratique la parole et ne vous bornez pas à l'écouter en vous trompant vous-même par de faux raisonnements. Car si quelqu'un écoute la parole et ne la met pas en pratique, il est semblable à un homme qui regarde dans un miroir son visage naturel et qui, après s'être regardé, s'en va et oublie aussitôt quel il était. Mais celui qui aura plongé ses regards dans la loi parfaite, la loi de la liberté, et qui aura persévéré, n'étant pas un auditeur oublieux, mais se mettant à l'œuvre, celui-là sera heureux dans son activité. Heureux dans son activité. Heureux dans notre monde, malgré tout ce qui nous y empêche. Heureux comme la femme d'Osée, dès qu'elle redécouvre son mari. Voilà, je vous laisse un moment juste de silence. Oui, Seigneur, moi je te prie pour que, c'est vrai, nous ayons nos vies qui soient sauvées, nos vies qui soient pleines de bonnes habitudes. Et que tu nous libères, c'est vrai, de tout ce qui, dans chacune de nos vies, dans chacune de nos habitudes peut-être, de nos mauvais réflexes, qui attristent le Saint-Esprit, qui nous attristent nous-mêmes, qui nous remplissent de culpabilité. Et Seigneur, tu as dit que tu veux nous libérer de tout cela. Et Seigneur, fais que nous découvrions ça chacun ce matin, cette vérité. C'est quelque chose de vrai, de réel. Et Seigneur, nous voulons être témoins chacun, individuellement. Mets au profit cette semaine, mets au profit ces jours suivants pour que ta parole, ton esprit fasse son œuvre en nous. Sois glorifié par nos vies aussi. Amen. Voilà, je vais passer aux annonces. Donc, je ne sais pas, on les a pas, d'accord. Bon, ben, bon, il y a pas, mais il y a quand même. Non, mardi à 14h30 cette semaine, il y a l'étude biblique des aînés. Donc 14h30 mardi. Jeudi 26. Donc on a une réunion prière ici à l'église. Et ça, on va mettre ce temps de prière jeudi pour prier vraiment spécifiquement pour la semaine du camp. Du club d'été qui a lieu donc la semaine du 15 août. Et à ce sujet, juste rappeler qu'il est important, même pour toutes les personnes de l'Église, d'inscrire dès maintenant leurs enfants, parce que savoir on doit acheter pas mal de choses, faire des commandes, qu'on sache un peu le nombre d'enfants que l'on aura. À ce jour, on a 20 enfants qui sont inscrits. On sait qu'il y en a d'autres qui vont venir. Donc on peut déjà aussi prier pour ces enfants qui ne sont pas inscrits, que peut-être les parents hésitent à les inscrire, ben que justement le Seigneur, l'Esprit convainque aussi ces personnes de besoin d'envoyer les enfants pour qu'ils puissent entendre aussi la parole de Dieu et être témoins de l'amour qu'on peut leur manifester. Donc il y a toujours des prospectus à l'arrière que vous pouvez distribuer à vos voisins, vos amis. Et en tous les cas, pour donc jeudi, réunion de prière, donc importante pour ce travail. Ensuite, dimanche, donc on a le culte à la Lècherolles, dimanche, donc il n'y aura pas de culte ici. Dans la mesure, bien sûr, où le temps le permet, parce que la météo, on ne saura pas trop. Mais donc, le culte à la Lècherolles a lieu dimanche prochain à 11h. Donc on peut arriver vers 10h15, 10h30 au parking de la Vatée. Pour ceux qui ne connaissent pas, parking de la Vatée, c'est une petite station de ski de fond qui est après le col de la Faucille. Donc vous verrez, il y aura des voitures sur ce grand parking. Et après, il y a la possibilité de se faire transporter avec des chevaux, hein, calèche, voiture. Mais sinon, il faut monter pour ceux qui le peuvent à pied. Il y a en gros 20-25 minutes.
Il y a aussi une navette pour tous les sacs.
Oui, la navette aussi pour le sac, ouais. Alors, de toute façon, si il y a un doute au temps, donc on appelle tous Jean-Paul jusqu'à 9h, et là on verra s'il pleut vraiment, on fera le culte ici, bien sûr. Et ça sera un culte de témoignage, hein, puisque ça sera, je crois, le cinquième dimanche, c'est un culte de témoignage, donc si vous avez des témoignages à nous apporter, ça sera volontiers. Voilà. Est-ce qu'il y a peut-être des annonces? Oui, prions aussi pour Abel. Abel qui a un peu des soucis avec son. Il y a eu une opération à l'œil pour, je crois, la cataracte. Et puis, il n'est pas. Ça ne se remet pas comme normalement ça se remettrait facilement. Et donc, il y a un souci, une inquiétude à ce niveau-là. Donc, prions aussi pour sa santé. Voilà, ben, je vous laisse juste encore une parole de bénédiction. J'ai lu tout à l'heure Jacques, juste les passages qui avant. Jacques 1, verset 16. « Ne vous y trompez pas, mes frères bien-aimés. Toute grâce excellente et tout don parfait descendent d'en haut du Père des Lumières, chez lequel il n'y a ni changement ni ombre de variation. Il nous a engendrés selon sa volonté, par la parole de vérité, afin que nous soyons en quelque sorte les prémices de ces créatures. Sachez-le, mes frères bien-aimés. Sachez-le, mes frères bien-aimés. Amen.